I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Pendant le confinement, chaque jour sur Instagram, il a offert à ses fans des reprises à la guitare.
J'ai encore rêvé d'elle. C'est bête, elle n'a rien fait pour ça. Elle n'est pas vraiment belle. Oh, c'est mieux, elle est faite pour moi.
Benjamin Biolay a sorti le 26 juin son 9e album, Grand Prix, jugé très réussi par les critiques, et l'une de ses chansons, Comment est à peine, dépasse déjà le million de vues sur YouTube. Longtemps présenté comme un sale gosse, voire une tête à claque, Benjamin Biolay, 47 ans, devient de plus en plus populaire. Dans Code Source, aujourd'hui, Emmanuel Marolles et Éric Bureau, du service culture du Parisien, nous racontent son parcours.
Je voudrais du soleil vert.
Emmanuel Marolles, en 2000, cette chanson d'Henri Salvador passe sur toutes les radios en France.
Des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver.
C'est l'événement musical de l'année quasiment. Henri Salvador sort en 2000 un album qui s'appelle Chambre avec vue, qui est porté par cette chanson qu'on entend, Jardin d'hiver, et qui se vend à 1 million d'exemplaires. Il faut se rappeler qu'à l'époque, Henri Salvador, c'est entre guillemets presque plus personne musicalement. Il n'avait pas sorti de disque depuis 15 ans. Et arrive cet album un peu miraculeux et cette chanson qui est l'une des plus belles chansons de la chanson française. Il en avait fait d'autres, lui, avant, avec Syracuse, avec Le Loup, la Biche et le Chevalier, qu'on connaît sous le nom d'une chanson douce. Mais voilà, arrive cette chanson incroyable, signée par deux jeunes artistes qu'on connaît peu, voire pas du tout, Kerenan et Benjamin Biolay. C'est comme ça qu'on découvre ce jeune homme qui s'apprête à sortir son premier album solo sous son nom. Mais avant tout, à ce moment-là, on découvre Benjamin Biolay à travers l'album d'Henri Salvador.
Je voudrais du Fred Astaire.
On va raconter le parcours de Benjamin Biolay avant d'évoquer son tout dernier album avec Éric Bureau. Emmanuel Marolles, Benjamin Biolay est né le 20 janvier 1973 à Villefranche-sur-Saône, à une trentaine de kilomètres de Lyon. Dans quel milieu est-ce qu'il grandit ?
Il grandit dans un milieu assez populaire. La famille vit dans un lotissement qui s'appelle la Quarantaine à Villefranche-sur-Saône. C'est un petit pavillon modeste, un peu à l'image des Biolay. Son père est agent de maîtrise à la MNEF. Sa maman est mère au foyer. Et tout le monde vit sur les 6000 francs que le papa gagne chaque mois. Et puis, c'est à peu près tout.
Et pourtant, son arrière-grand-père avait fait fortune.
Oui, c'est un peu le traumatisme de la famille Biolay, ça. C'est-à-dire que du côté de la maman de Benjamin, c'est une famille qui a créé l'Opinel, c'est la famille Opinel, donc ces fameux couteaux qu'on continue à utiliser aujourd'hui, donc évidemment, famille qui a fait fortune. Et son grand-père a à un moment essayé de créer sa propre entreprise de coutellerie, et il s'est fait complètement laminer par ses frères. Et donc, il n'a pas du tout pu faire fortune et il a été un petit peu mis de côté de toute la famille. Et du coup, les Biolay n'ont absolument pas profité de la fortune familiale. C'était un peu, pas les parias de la famille, mais en tout cas, les vilains petits canards. Et pendant que tout le monde se faisait des cadeaux, justement, s'offrait des Opinel pendant les réunions de famille, eux arrivaient dans leur petite 4L et n'avaient pas grand-chose à l'arrivée.
Quand il est enfant, Benjamin Biolay fait beaucoup de musique.
La musique est très présente chez les Biolay. Son père est musicien amateur, il est féru de musique classique, il écoute beaucoup de musique classique en rentrant de chez lui, il se met apparemment assis dans son salon par terre avec le casque, etc. Et il écoute des grands classiques, des grands opéras, etc. Et il force un peu la main à ses enfants pour qu'ils jouent du violon, ils jouent de la clarinette, qu'ils apprennent vraiment la musique de manière assez classique.
Éric Bureau.
Benjamin Biolay avait passé un deal avec son père. Son père lui avait dit « Je veux que tu joues du violon comme tes sœurs ». Et Benjamin Biolay lui avait dit « Ok, mais dans ce cas-là, je joue au foot aussi », parce que c'était sa grande passion d'adolescent. Et donc voilà, il a grandi entre les deux, violon, trombone et foot.
Vers l'âge de 16 ans, Emmanuel Marolles, il claque la porte de ses parents.
Oui, c'est ce qu'il raconte en tout cas. Il estime qu'il s'ennuie dans cette petite ville de province où il ne se passe pas grand-chose et il a envie d'une vie qui le fait plus rêver. Il a comme fantasme Gatsby le Magnifique. Il a envie de tenter sa chance ailleurs et il fait une sorte de coup d'éclat à 16 ans. Il claque littéralement la porte de chez ses parents en disant « Vous me reverrez plus, je m'emmerde trop ici, vous êtes des nuls, etc. Moi, je veux autre chose. » Et il s'en va. En tout cas, c'est ce que l'histoire raconte et qu'apparemment, il est resté fâché pendant une dizaine d'années avec ses parents.
Quand il a la vingtaine, il squatte le canapé de ses amis, il joue dans différents groupes de jazz, de reggae, et c'est à Lyon qu'il rencontre un certain Hubert Mounier.
Oui, Hubert Mounier, c'est le chanteur d'un groupe qui s'appelle L'Affaire Louis Trio, qui a été très connu du grand public pour une chanson qui s'appelle Chic Planète, qui était assez légère, qui a signé des albums absolument magnifiques. Et Biolay rencontre Hubert Mounier à l'époque. Et Mounier décèle tout de suite le génie musical du garçon. C'est-à-dire qu'il sent que ce jeune homme est capable de tout. Déjà, il a multiplié les prix de conservatoire, il a l'oreille absolue, ça veut dire qu'il peut instantanément vous dire exactement quelle est la note que l'on entend quand quelqu'un appuie sur une touche de piano, etc. Il est touche à tout, tout lui réussit. Et Hubert Mounier va commencer à travailler avec lui sur ce qui sera le dernier album de L'Affaire Louis Trio, où il l'emmène en studio avec lui. Et puis, il va travailler aussi sur son premier album solo, qui sortira quelques années plus tard.
Quelques temps après, il part s'installer à Paris en 1996. Il a 23 ans. Il va avoir une histoire d'amour importante.
Oui, il va rencontrer quelqu'un qui s'appelle Karen Ann, en tout cas qu'on connaît sous le nom de Karen Ann en tant qu'artiste. Et voilà, ils vivent une histoire d'amour ensemble. Et puis, c'est aussi deux musiciens passionnés qui vont créer un groupe avec une troisième musicienne qui s'appelle Karen Brunon, qui est maintenant musicienne violoniste et qui accompagne plein d'artistes. Et ce groupe s'appelle Shelby. C'est une sorte de petit groupe pop qui restera assez confidentiel et qui est aujourd'hui mythique, qui a fait un album. Et Benjamin Biolay arrive à Paris et commence à vraiment s'immerger dans le milieu musical parisien.
Et c'est là que la chanson qu'il coécrit avec Karen Ann, Jardin d'hiver, cartonne. En parallèle, Benjamin Biolay entame sa carrière de chanteur solo.
Oui, en fait, tout s'entremêle à ce moment-là. On est au début des années 2000. Karen Ann et Benjamin Biolay travaillent sur ce qui va devenir l'album Chambre avec vue d'Henri Salvador. Il lui amène des chansons vraiment sur un plateau, sur mesure, et l'album est enregistré et a le succès qu'on connaît. Benjamin signe un contrat chez Virgin pour enregistrer son premier album. Tout ça quelques mois après que Karen Ann elle-même ait sorti son album sur lequel il a travaillé, où il y a déjà une première version de Jardin d'hiver de Salvador, puisque c'est une chanson qu'ils avaient coécrite ensemble et qu'ils ont testée quelque part sur le premier album de Karen Ann. Toute la machine se met en route à ce moment-là pour lui.
Et à cette époque, Benjamin Biolay va prendre un café avec une actrice.
C'est sa maison de disques qui lui suggère ça, sans doute parce qu'elle décèle derrière le côté touche-à-tout, chanteur, musicien, auteur, producteur, quelqu'un qui pourrait travailler avec plein de gens, qui pourrait faire chanter plein de gens. Et donc, il lui suggère de prendre un café avec Chiara Mastroianni, qu'il connaît pas, pour voir s'il n'y a pas musicalement quelque chose à faire ensemble, parce que Chiara aimerait peut-être un petit peu chanter. Enfin voilà, c'est des choses qui peuvent, chez les actrices, exister comme ça, comme des idées un peu en l'air qui se concrétisent ou pas. Et voilà, ils se rencontrent. Et là, c'est le coup de foudre, mais avant tout personnel et amoureux. Ils vont connaître une grande histoire d'amour, se marier, avoir même une fille qui a aujourd'hui 16 ans, qui s'appelle Anna.
Éric Bureau.
Il dit encore qu'aujourd'hui, que l'album qu'il a réalisé pour Chiara, de ses 80 réalisations, est son préféré.
Chiara Mastroianni, c'est la fille de l'acteur Marcello Mastroianni et de Catherine Deneuve. Du coup, Benjamin Biolay va se retrouver parfois à déjeuner chez sa belle-mère, Catherine Deneuve.
Oui, ça paraît un peu surréaliste, et c'est un peu surréaliste pour lui, parce que quand, encore une fois, on se souvient du parcours et d'où il vient, Benjamin Biolay, d'une famille plutôt modeste, comptant ses sous, etc., il se retrouve en quelques mois, après toute cette histoire avec Salvador, avec la sortie de son premier album, à déjeuner chez Catherine Deneuve. Après, c'est un garçon qui est assez intelligent et qui a assez de recul pour pas se laisser griser par tout ça. C'est-à-dire qu'il sait très bien d'où il vient, il a une vraie culture, il est passionné, il vit, je pense, ça plutôt bien, même si sur le papier, ça paraît un petit peu surréaliste.
Et dans la foulée, Benjamin Biolay va composer pour beaucoup d'artistes.
Il va un peu composer pour la terre entière, en tout cas pour toute la chanson française. Ça va de En Vrac, Françoise Hardy, Julien Clerc, Juliette Gréco, Valérie Lagrange, Daphné, sa propre sœur, Coralie Clément. Enfin voilà, il y a un moment où quasiment tous les mois, il y a un album qui sort où il y a la présence de Benjamin Biolay en tant que réalisateur, en tant que co-auteur, en duo avec l'artiste en question. Enfin voilà, il est partout.
Vous, à ce moment-là, est-ce que vous le rencontrez pour Le Parisien ?
Oui, la première fois que je le rencontre, c'est pour son deuxième album solo qui s'appelle Négatif. Et moi, j'arrive avec des préjugés. Ce jour-là.
Lesquels ?
Je pense que je vais me retrouver face à quelqu'un d'assez insupportable, hautain, tête à claque. Parce que c'est l'image que j'en ai et c'est surtout l'image qu'on m'en donne. Moi, musicalement, cet album Négatif me passionnait pas des masses. Mais voilà, il y avait forcément une curiosité autour de ce garçon. Et là, je découvre un garçon extrêmement sympathique, ouvert, curieux, avec qui vous pouvez évidemment parler de musique parce que c'est sa passion, mais aussi de plein de choses, de l'actualité, des médias en l'occurrence. C'est quelqu'un qui se passionne pour les médias, donc il savait très bien ce que c'était que Le Parisien, il le lisait. La discussion, en fait, s'engage très très facilement. Et depuis cette première rencontre en 2003, ça a toujours été comme ça avec lui.
Au printemps 2005, vous devez le rencontrer à nouveau, mais ça ne se passe pas comme prévu.
Alors en 2005, il est toujours aussi sympathique avec moi en tout cas, mais il n'est pas dans le même état que la première fois. Là, ça fait donc 5 ans qu'il a signé l'album de Salvador. Il a sorti plusieurs albums. Il s'est marié avec Chiara Mastroianni. Il est donc le gendre de Catherine Deneuve. Et il traîne toujours cette réputation un petit peu de garçon insupportable, poseur, maintenant dans une famille bourgeoise, people, etc. La presse n'est pas très tendre avec lui. Et il sent ça, il sent qu'il a un côté mal aimé. Et en 2005, on doit se rencontrer dans les bureaux de sa maison de disques, Virgin à l'époque. Il arrive au rendez-vous. Et normalement, dans le hall de la maison de disques, on demande l'identité des personnes qui entrent. Et là, lui, il est rentré tout de go. Il s'est dit, j'ai pas besoin de décliner mon identité. Et là, le vigile l'a rattrapé. Et ça l'a ultra vexé, aussi parce qu'il était dans un mood assez négatif à ce moment-là. Il est reparti. On a annulé l'interview. Et on s'est revus 2 jours après, mais dans un restaurant juste à côté, parce qu'il ne voulait plus foutre les pieds dans la maison de disques pendant un certain temps à cause de ça. Et ce jour-là, l'interview commence et j'ai rarement vécu une interview avec un artiste qui avait une parole aussi libre, cash, sans filtre que ce jour-là. Ça allait pas, il savait pas trop quoi faire, il m'a même dit qu'il allait sans doute arrêter la chanson, qu'il en avait marre qu'on lui parle tout le temps de Catherine Deneuve, qu'il en avait marre que Salvador lui crache dessus, parce que c'était quand même un petit peu le cas à ce moment-là. Salvador disant « j'ai pas besoin de ce petit con pour écrire des chansons, j'ai écrit Syracuse et j'ai écrit une chanson douce, donc ça va, j'ai de leçons à recevoir de personne », alors qu'il me disait « mais Salvador, il serait rien aujourd'hui si on lui avait pas amené des chansons sur un plateau, tout le monde se foutait de sa gueule, à l'époque il était juste digne d'aller aux grosses têtes, et nous on lui a fait un album sur mesure, on l'a fait signer dans cette maison de disques qui ne voulait pas de lui grâce à ses chansons, etc. » Donc il trouvait ça assez injuste. Mmh. Il y avait un côté Calimero de la chanson, quoi. C'est vraiment trop injuste. Il y avait ce côté-là. Donc ça a été une interview assez étonnante et où on sentait qu'il était perdu et qu'en même temps il avait envie de faire de la musique à tout prix, mais que l'image qu'on lui renvoyait était assez violente finalement.
C'est quelqu'un qui peut être dépressif ?
Oui, d'une certaine façon, c'est quelqu'un qui peut vite se laisser gagner par la mélancolie. De toute façon, on le sent dans ses chansons et dans ce qu'il raconte, mais ça va même au-delà. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut sombrer, en quelque sorte, l'anecdote de cette arrivée dans la maison de disques, on ne le reconnaît pas, et où il repart, il y a vraiment ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il renferme complètement sur lui-même. Alors ça peut passer par de la gamberge et de la dépression, mais ça peut passer aussi par l'alcool, où il picole beaucoup, les pétards aussi, où il fume beaucoup. Et en même temps, il est assez lucide et conscient comprendre tout ça, c'est-à-dire qu'il y a eu des moments où il a pu être en perdition, entre guillemets, à travers tous ces produits-là. Et en même temps, il est conscient qu'à un moment, il se met en danger et qu'il faut arrêter.
2009, c'est un tournant pour lui.
Il se sépare déjà de Chiara Mastroianni. Ils étaient mariés depuis quelques années. Il divorce. C'est un peu là où tout bascule pour lui, 2009. C'est-à-dire qu'il s'est un peu fait remercier par sa maison de disques. Commercialement, c'est pas du tout des succès, ces albums. Ça tourne autour de 30, 40 000 exemplaires à tout casser. C'était une époque où on vendait encore des disques. Hein. Donc, il se fait remercier par sa maison de disques. Il a plus de contrat. Il sait plus trop quoi faire. Il continue à travailler pour les uns, pour les autres. Mais pour ses projets à lui, il ne sait pas trop où il va. Il envisage un moment un album en duo avec Jeanne Chéral. Ils enregistrent un certain nombre de chansons ensemble. Et cet album, pour des raisons contractuelles, parce qu'ils sont, lui n'a plus de contrat, elle est dans une autre maison de disques, etc., ne verra jamais le jour. Il paraît qu'il y a des chansons qui existent dans un tiroir. Et on en connaît une qui va se retrouver dans son album qui sort à ce moment-là, qui s'appelle La Superbe.
La Superbe. Dieu merci, à la merci de l'amour crasse, d'un simple démenti, d'une mauvaise vie, d'une mauvaise passe. Le silence est aussi pesant qu'un porte-avions qui passe. Quelle aventure, quelle aventure.
Et là, soudain, je dis ça ironiquement, mais c'est le cas, tout le monde adore Benjamin Violet.
Le soleil s'enfuit comme un savon, soudain qui glisse. Quelle aventure, quelle aventure.
Comme si tout le monde découvrait à ce moment-là que c'est un type qui sait écrire des chansons, qui sait écrire des textes et qui peut faire des bons albums.
C'est comment La Superbe ?
C'est un superbe disque, comme son nom l'indique. C'est un excellent album. Il y a des très très grandes chansons. Il y a une chanson sur sa fille qui s'appelle Ton héritage. Il y a cette chanson qui a été sauvée de cet album avec Jeanne Chéral qui s'appelle Brand Rhapsody, où c'est un dialogue entre un homme et une femme qui forment un couple de la rencontre jusqu'au divorce à travers des post-it qui se mettent sur leur réfrigérateur Brandt. En l'occurrence, d'où le titre.
Hier soir, j'ai oublié de te parler d'un truc important. Est-ce que tu peux m'appeler dès que tu te réveilles à n'importe quel moment? Ouvrez la parenthèse, important, mais pas grave. Fermez la parenthèse, je t'embrasse.
Donc il y a plein de choses sur cet album. Et là, non seulement il va avoir un succès critique, et il va connaître aussi un énorme succès commercial. Ça va se vendre à près de 300 000 exemplaires. Il change de maison de disque, du coup ça sort chez Naïve. Et on s'est vu un petit peu après la sortie du disque, et je lui avais dit un peu en rigolant, mais il se marrait aussi, en disant « mais c'est fou, tout le monde découvre que tu sais écrire des chansons ». À la fois il savourait, il n'y avait pas d'idée de revanche, etc., mais il était un petit peu aussi consterné, sans fausse humilité, par le fait que tout le monde avait l'air de découvrir qu'il avait du talent.
Éric Bureau.
La Superbe lui rapporte 2 victoires de la musique aussi. À partir de ce moment-là, Benjamin Biolay ne sera plus regardé par la profession comme par le public de la même manière.
La même année, Benjamin Biolay reçoit le César du meilleur acteur dans un second rôle.
Oui, il joue dans un film qui s'appelle Stella de Sylvie Vered, où il se fait remarquer. Il joue le père de l'héroïne, donc la fameuse Stella, qui est une adolescente. Et il joue un patron de bistrot. C'est un film assez fort en émotion.
Depuis que je suis rentrée, mes parents se font la gueule. Va, je peux dormir chez Gladys vendredi soir.
Elle dit quoi, ta mère ?
Demande à ton père.
Chut. Tu m'écoutes ?
Oui.
Bah, tu maries jamais. D'accord.
Alors ? Je peux aller dormir chez elle ?
Chez qui ?
Gladys.
Demande à ta mère.
Le cinéma paraît assez naturel pour lui. On n'a pas l'impression qu'il surjoue, on a l'impression que c'est quelque chose qui coule de source, quelque part. Et puis en plus, je pense que c'est une récréation pour lui, parce que autant en musique, il contrôle tout, et il veut avoir la main sur tout. Et autant en cinéma, il se laisse porter par l'histoire, par le scénario et par le metteur en scène.
Éric Bureau, en 2013, Benjamin Biolay part sur les routes avec une chanteuse.
Oui, avec Vanessa Paradis. C'est une belle rencontre et c'est un splendide double album qu'il écrit et réalise pour elle, qui s'appelle Love Songs.
De vos rêves à mes rêves, il n'y a presque rien.
Elle a toujours aimé trouver des réalisateurs et des compositeurs pour sa voix. Mathieu Chédid venait juste travailler avec elle. Et lui a besoin de muses. Il est fasciné par les femmes, il est fasciné par leur voix. Et donc il aime écrire pour elle. Donc voilà, les deux se trouvent. Ils partent sur les routes tous les deux. C'est rigolo de les voir tous les deux sur scène parce qu'elle est dans la lumière et lui, sur scène, sur cette tournée-là, il est vraiment dans l'ombre. Il est derrière son piano, au fond de la scène. Les autres musiciens sont plus éclairés que lui. Il joue du trombone, de la guitare. Enfin, il intervient très souvent pendant le concert. Mais il veut surtout pas prendre la place de la chanteuse et il reste à sa place.
Vous me reconnaîtrez car je porterai un bouquet.
Mais c'est une période aussi où, certes, il retrouve le succès, il a des bonnes critiques, mais en même temps, il est un petit peu, effectivement, harcelé par la presse people. Lui, il nie être en couple avec elle. Je me souviens qu'on en avait parlé à l'époque où il commençait à y avoir des premières photos en interview. Et il m'avait dit, non, c'est pas parce qu'on a écrit 3 chansons ensemble et qu'évidemment, on est sorti de studio et qu'on s'est fait shooter par les paparazzi, qu'on est ensemble. C'est vraiment dur pour elle, qui est déjà harcelée par les paparazzi, de voir que dès qu'elle approche d'un mec avec qui elle travaille, elle est forcément en couple avec lui. C'était une réponse un petit peu langue de bois, enfin une façon d'esquiver la réalité, quoi. Il se voyait pas du tout, compte tenu de la présence de Vanessa Paradis à ses côtés et dans sa vie, dire officiellement bah oui, on est en couple.
Éric Bureau, en 2015, Benjamin Biolay prend un aller simple pour l'Argentine.
C'est une façon pour lui de fuir les paparazzi, la presse people, et une façon pour lui de retrouver un endroit dont il est tombé amoureux une dizaine d'années auparavant. C'est Elie Medeiros qui lui avait dit que ses chansons, à lui, passaient à Buenos Aires. Il s'est dit, je vais aller voir ce que ça donne là-bas. Donc il a joué 2 soirs de suite dans une salle de la taille de la Cigale. Ça a bien marché. Ensuite, il est revenu y chanter avec Yara Mastroianni, qui, elle, était connue aussi en Argentine. C'est ce qu'il me disait il y a peu. C'est vraiment un pays qui lui ressemble, qui est plein de contrastes. Il aime son métissage. Il aime retrouver au sud des influences européennes, italiennes, espagnoles, polonaises, y compris dans l'architecture et dans leur goût. Ils sont très rock, les Argentins. Et au nord, l'identité plus pure de l'Amérique du Sud. Il aime se retrouver entre les deux.
En 2016, Benjamin Biolay sort un album intitulé « Palermo Hollywood ».
C'est le premier fruit de l'arbre qu'il a planté en Argentine. Il voulait faire un double album. Sa nouvelle maison de disques, Barclay, lui a dit « Non, tu vas en faire 2 ». Donc il a fait « Palermo Hollywood » et « Volver » qui est sorti l'année d'après. Deux superbes albums avec des nouvelles idées de composition, avec des cordes splendides en Argentine. Il se crée une nouvelle vie, c'est-à-dire qu'il va y aller désormais tous les ans et plusieurs mois par an.
Le jour se lève enfin sur Palermo, Hollywood. Un train se marche dans la rue, me lâche un coup de coude. Alors je monte dans un taxi qui me dit de fumer, merci. Libertador, même l'hiver, j'adore.
Éric Bureau, le 26 juin, Benjamin Biolay sort son 9e album, Grand Prix. Vous l'avez rencontré à cette occasion mi-juin. D'abord, pourquoi ce titre Grand Prix ?
Grand Prix parce qu'il est fan de Formule 1. Quand il était gamin, en fait, les déjeuners du dimanche en famille se finissaient toujours en regardant le Grand Prix avec ses oncles. C'était aussi une époque où il y avait vraiment Keke Rosberg, Ayrton Senna, dont il parle dans une chanson de son nouvel album. Il y avait quand même des mythes. Et il a toujours gardé ça. Et puis, il y a aussi cette image quand même, vivre vite et mourir jeune. La fleur de vivre, James Dean. Il y a aussi cette métaphore-là.
Éric Bureau, sur cet album, il y a 4 femmes qui chantent.
Oui. Il y a donc Karen Anne. Ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas chanté ensemble, en tout cas sur disque. Il y a Chiara Mastroianni.
Avec qui ils gardent toujours de très bonnes relations.
Exactement. Il y a Anaïs de Moustier, actrice, qui, encore une fois, d'après la presse People, serait sa nouvelle compagne. Mais je ne lui ai pas posé la question. Donc, il ne m'a pas répondu. Et une certaine Bambi.
Qui est Bambi ?
C'est Anna Biolay. C'est sa fille qui a 17 ans. Mais elle n'assumait pas de chanter sous ce nom-là. Parce que bon, voilà, c'est quand même la petite fille de Marcello Mastroianni et Catherine Deneuve. Pour l'instant, en tout cas, elle n'assume pas encore bien d'apparaître sous le prénom d'Anna. Il me dit qu'elle chante très bien.
Ça fait du bien. Toute la rivière et l'océan Indien.
Anna se trouvait dans le studio alors que son père était en train d'enregistrer cette chanson. Il lui a dit, tiens, tu fais des petites vibes, là, tu viendrais pas les faire avec moi. Et donc, elle a fait deux prises et c'était super. Et donc, elle est repartie traîner avec ses copains. Il m'a dit, c'était aussi simple que ça.
Emmanuel Marolle, à l'occasion de la sortie de cet album Grand Prix, Benjamin Biolay s'exprime le 13 juin dernier dans Télérama et il sort un petit scoop sur sa vie privée.
Oui, alors il le sort de la manière la plus naturelle qui soit, entre deux virgules en quelque sorte, où il parle de l'Argentine et où il dit là-bas j'ai mes potes, des copains musiciens, un enfant, et puis voilà, il continue, il poursuit sa réponse comme ça, et en lisant ça on se dit pardon, un enfant? Et effectivement, il n'avait jamais parlé de ça. Je pense qu'il n'a pas spécialement envie d'en dire plus, notamment parce que l'Argentine est un cocon assez protecteur pour lui et que personne vient l'embêter et tout le monde lui fout la paix. Et donc voilà, apparemment, il a eu une histoire avec quelqu'un et donc un enfant, qui est une fille en l'occurrence, et qui voit régulièrement quand il va là-bas.
Éric Bureau, il vous en a parlé de cette fille qui vit en Argentine ?
Oui, il m'en a parlé un petit peu. C'est une petite fille de 2 ans qui vit là-bas avec sa maman. En Argentine, le confinement se poursuit, il rentre dans l'hiver et donc il n'est pas certain du tout de revoir sa fille avant plusieurs semaines. Et ça, c'est une grosse souffrance pour lui.
Emmanuel Marolle, pour ce numéro de Télérama, Benjamin Biolay n'a pas seulement accordé une interview, il en était le rédacteur en chef invité, c'est rare ?
Oui, c'est vrai que c'est assez rare. C'est pas tous les jours qu'on confie les commentaires de différents sujets à un journal en entier. Et ça montre encore une fois la notoriété là où il en est aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui compte dans le paysage musical français, qui est l'une des figures majeures de la chanson française, mais qui est aussi l'une des figures culturelles les plus importantes en France.
Il se passe quelque chose autour de Benjamin Biolay avec ce nouvel album plus pop que les autres. Et cette chanson qui est sortie il y a un mois qui s'appelle « Comment est ta peine » passe dans des radios qu'il n'avait jamais programmées jusque-là. Chérie FM, Virgin Radio, qui sont des radios plus pop.
Très grand public aussi.
Et très grand public. Et tout ça, ça va peut-être le rendre encore plus populaire.
Merci à Éric Bureau et Emmanuel Marolle. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été conçu et préparé par Myrène Garaïco-Echea, production Thibault Lambert, réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous écrire directement codesource@leparisien.fr.
Thank you. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.